bien, donc je ne sais pas si vous aviez des questions déjà.
Normalement, à cette réponse, face à cette question, on obtient la réponse rituelle du grand silence. Donc, en très rapide, donc depuis le début de l'année, nous avons parlé du titre de cet évangile de Saint Marc. Nous avons dit beaucoup de choses, notamment qui nous donne le plan. Nous avons parlé de la scène inaugurale du baptême qui illustre ce titre, qui nous montre Jésus, Christ et Fils de Dieu. Nous avons parlé du diptyque aussi, entre le désert et Capharnaüm, avec le Christ qui a autorité sur les hommes, sur les bêtes sauvages, qui repousse le démon, chasse les démons, ou un démon, et qui est servi par les anges et par les hommes, représentés par la belle-mère de Simon. Et la dernière fois, nous étions plus spécialement arrêtés sur les chapitres 2 et le début du chapitre 3, et nous avions dit que la substantifique moelle de ces chapitres, c'était que face à l'incompréhension et à l'hostilité des pharisiens notamment, Jésus annonçait la nouveauté de l'évangile. On avait dit justement qu'au cœur de toute cette partie, il y avait la parabole du vin nouveau dans les outres neuves, et c'était vraiment ça qui donnait la clé de toute cette partie, que le Christ annonçait cette nouveauté de l'évangile, à savoir que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, que le Fils de l'homme, eh bien, était de condition divine. Et c'est ça qui, finalement, était la grande nouvelle de ce début d'évangile, et il montrait cette condition divine par son pouvoir sur la nature corporelle, en guérissant la lèpre, son pouvoir sur la nature spirituelle, en pardonnant les péchés, et puis son pouvoir aussi, sa maîtrise, son autorité sur les grandes institutions d'Israël, et notamment sur le sabbat. Donc on avait centré le propos là-dessus, en l'illustrant notamment par cette dernière confrontation à la synagogue, et vous avez donc signalé que la Bible chrétienne montre très bien tout ce jeu de parallèles et d'opposition en même temps entre Jésus et les pharisiens, et au milieu, cet homme que Jésus guérit, et cette question que Jésus pose, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal un jour de sabbat, de sauver ou de perdre, et on avait dit donc que c'était la question essentielle finalement de la mission du Christ. Si vous n'avez pas de questions, eh bien nous continuons la lecture, donc je vous encourage à vous munir de l'évangile si vous l'avez. Donc nous sommes au chapitre 3, verset 7. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Puis il gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12, Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui car ils leur affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Une personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera la maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Avant de vous donner la parole éventuellement pour des questions, je voudrais parler en premier, ce n'est pas coutume, et ne pas vous laisser poser des questions parce que je ne voulais pas qu'on parte sur des points qui sans doute méritent explication et éclaircissement, mais qui nous feraient peut-être perdre le sens du propos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, on peut s'arrêter sur beaucoup de paroles du Seigneur, on peut s'arrêter sur voilà, différentes choses qui peuvent nous surprendre, mais je voudrais insister, si je me suis arrêté là où je me suis arrêté, c'est parce qu'à mon sens, cela donne la clé de tout le passage. Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est-à-dire que le Christ, après avoir commencé à se présenter comme le Fils de Dieu face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, comme on le disait, va passer à une deuxième étape à partir de maintenant dans sa prédication, un peu le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire qu'après avoir dit qu'il était le Fils de Dieu, il va commencer à dire qu'il est venu pour fonder une nouvelle famille. La famille, précisément, des enfants de Dieu. Et que cette dignité d'enfant de Dieu, qu'il a de façon incomparable et unique, il est venu nous la communiquer par adoption, par grâce. C'est évidemment la grâce du baptême lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, le Christ va commencer à parler du royaume. Ce royaume, c'est justement le royaume des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, le Christ, on le voit déjà, commence à poser les fondations de son Église avec les 12. Et l'Église, c'est justement la communauté des enfants de Dieu. Le Christ vient tisser un lien nouveau, il vient fonder une famille spirituelle, et c'est pourquoi il dit, voici ma mère et mes frères et mes sœurs, et ce lien nouveau, c'est pas un lien de sang, c'est un lien de charité, c'est le lien de ceux qui font la volonté de Dieu, et plus tard, ce sera le lien de la grâce baptismale, le lien du baptême. Et c'est ça qui donne sa cohérence, à la fois à ce que nous venons de lire, et puis aux deux chapitres qui vont suivre. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres richesses dans ces passages, mais c'est ça qui est fondamental. Et juste après, on entendra différentes paraboles du royaume qui, toutes, ont trait à la fécondité de la parole. Et c'est pas anodin, ça montre justement que le royaume de Dieu n'est pas une réalité statique, n'est pas une réalité politique ou administrative, il est d'abord une réalité familiale, en quelque sorte, une réalité vivante, vivace, qu'il y a une fécondité. Et cette partie, justement, allait scander. On avait dit avant qu'il y avait, face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, Jésus qui s'affirme comme le Fils de Dieu. Eh bien, dans cette nouvelle partie, c'est face à l'incompréhension et à l'hostilité des siens, de sa famille de chair, Jésus qui affirme que, justement, non seulement il est le Fils de Dieu, mais qu'il appelle voilà, tous les hommes à cette dignité de Fils de Dieu. C'est ça, en quelque sorte, le deuxième étage de la fusée. Et si on veut reprendre un petit peu, comme je disais, déjà, l'appel des douze, c'est poser les fondements de cette communauté ecclésiale, mais le simple fait aussi que Jésus donne des noms à certains de ses apôtres, c'est aussi quelque chose de très familial, oui, c'est le Père qui donne des noms. Et le fait que Jésus donne un nouveau nom à Simon, qui donne un nouveau nom à Jacques et Jean, sur le trio qu'on retrouvera dans les moments très importants, voilà, ce n'est pas anodin. Le fait que le Christ, évidemment, comme je vous le disais, se démarque de sa famille de chair qui ne comprend pas ses agissements. Alors, bon, la Sainte Vierge est nommée, on peut penser que la Sainte Vierge, elle, comprend davantage, mais qu'elle a été entraînée un petit peu par les proches cousins, les proches parents, qui sont un petit peu décontenancés par cet agir de Jésus. Les gens se disent, voilà, certains l'admirent, d'autres le prennent pour un fou, et eux, voilà, se disent que voilà, cette mauvaise réputation va sans doute leur retomber dessus, donc ils voudraient l'attirer à part, le ramener à Nazareth pour que tout retombe dans l'anonymat et tout revienne à la normale. Et voilà, cette double opposition, à la fois quand ils viennent le chercher en disant « il perd la tête », puis quand ils reviennent encore pour dire « mais viens dehors, on a à te parler », voilà, cette opposition, cette incompréhension de la famille de chair, souligne encore cela davantage. Et puis comme je vous dis, on va voir dans la suite, avec ces paraboles de la fécondité, qui se termine par cette vision de la petite graine qui devient un grand arbre dans lequel les oiseaux font leur nid, donc avec cette vision aussi familiale de cette famille des oiseaux dans le nid, et puis ensuite la double guérison, dont on parlera après, on va voir que cette idée s'enracine petit à petit. Donc ça, c'est vraiment l'idée forte, je pense, qu'il faut garder en tête, à la fois sur le chapitre qu'on vient de lire, et elle va nous accompagner donc jusqu'au début du chapitre 6, donc dans les deux prochains chapitres également. Mais une fois qu'on a dit ça, peut-être que vous avez des questions sur tel ou tel passage, tel ou tel aspect, tel ou tel... expression de Jésus. Maria. Disons oui, dans la réalité historique, ce sont effectivement les gens de sa proche parenté, mais c'est sûr que de façon symbolique, ces gens de sa proche parenté, on peut dire effectivement, représentent tous ceux qui ne comprennent pas effectivement qui est le Christ, et c'est vrai que ça, on peut faire un lien avec le prologue de Saint Jean qu'on entend effectivement à la fin de la messe, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est sûr que là, ça dépasse le cadre de sa parenté en Galilée. C'est-à-dire les siens, c'est le peuple d'Israël qui n'a pas reconnu son Messie. Et puis d'une certaine manière, ouais, c'est chacun d'entre nous quand le Christ, nous le recevons à la communion sans savoir vraiment par exemple ce que nous faisons. Enfin, on peut effectivement trouver beaucoup d'applications spirituelles à ce passage qui effectivement désigne au départ sa proche parenté, mais qui peut être... qui peut être étendu ensuite effectivement à toute personne qui ne reconnaît pas le Christ, puisque bon, cette question de la reconnaissance de Jésus qui faisait l'objet de la première partie, Jésus comme Fils de Dieu, comme Messie, évidemment ne s'arrête pas avec le verset 6 du troisième chapitre, puisqu'on voit que ça rebondit, donc les siens effectivement ne le reconnaissent pas. Les scribes et les pharisiens disent même qu'il est possédé, donc c'est sûr qu'il y a toujours cette difficulté d'être reconnu comme le Christ et le Fils de Dieu.
Oui, c'est de façon parenthèse, il y en a jamais qui juge c'est
quand
il propose
tout un chemin. Oui.
Oui,
oui.
Je pense que la Vierge a pu souffrir.
C'est sûr qu'on... Enfin, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est vrai que nul mieux que la très sainte Vierge Marie n'a fait la volonté de Dieu. Donc d'une certaine manière, le Christ ne brise pas le lien avec sa mère, mais il la remet dans sa dignité la plus grande, qui est d'être non seulement la maman charnel du Fils de Dieu, mais surtout sa plus grande disciple, celle qui fait le mieux sa volonté. Et c'est vrai qu'à travers tout ce passage, il y a aussi cette leçon que Jésus veut donner, d'une grande liberté par rapport à sa famille charnelle, par rapport aux affections humaines, qui est, si on veut faire un parallèle aussi avec Saint-Luc, qui est la leçon que Jésus avait voulu donner quand il a été retrouvé au temple à 12 ans. Et quand il dit à... Pourquoi me cherchiez-vous dans l'angoisse? Ne saviez-vous pas que je vais être aux affaires de mon père? C'était un petit peu la même idée. C'était déjà voilà, un petit flash à 12 ans, au milieu de cette vie cachée de Nazareth qu'il avait avant et qu'il aura après. Mais il y a ce moment un peu unique dans cette vie cachée, où le Christ dévoile déjà ce qui sera sa future mission. Et puis, voilà, amène la Sainte Vierge et Saint Joseph à comprendre que ce qui sera le moteur de sa vie, et c'est très beau, c'est vraiment ce qui devrait nous habiter, ce qui sera le moteur de sa vie, c'est vraiment la volonté du Père. Donc il dira quelle est sa nourriture, voilà, ce que le Père veut, je le fais. Enfin, vraiment, à de nombreuses reprises, ça revient comme un refrain, évidemment, jusqu'à Gethsémani, hein. Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, voilà, il y a tout ça qui est en jeu, c'est-à-dire, il dit bien sa parenté charnelle, à la fois, vous ne me récupérerez pas pour me mettre à part, et puis, comme ça, que tout s'arrête, et puis, vous ne récupérerez pas non plus l'aura et les foules qui se pressent autour de moi, parce que mon œuvre vous dépasse totalement. C'est ça qui est aujourd'hui. Parce que certains auraient pu y voir des motifs d'être un peu affolés, mais d'autres auraient pu aussi voir des motifs d'intérêt en se disant bah non, c'est bien, il est connu, mais c'est bien, on va pouvoir en tirer profit. Et le Christ dit voilà, que son œuvre transcende tout ça. Maria, vous avez une deuxième question.
Pourquoi en fait les esprits impurs
lui obéissent? Parce qu'il est Dieu. Oui, mais ils ne sont pas obéis initialement. Quand Dieu laisse les anges libres de décider s'ils veulent rester avec lui ou partir, ils sont libres. Bah, mais quand Dieu commande, il obéit. Il est tout puissant. Donc,
c'est comme si, en fait, ils gardent leur liberté.
Ils gardent leur liberté, mais disons, ils voient bien que ce qu'ils font ne mène à rien. Donc, comme ils sont intelligents, et qu'ils voient qu'il y aura un mur en face d'eux, ils se retirent, parce que le démon n'a jamais quand même trop intérêt à se montrer, parce qu'on sait très bien que la ruse du démon, c'est justement de rester dans l'obscurité, donc c'est sûr que là, ils tendent des coups, c'est-à-dire que quand il dit ouais, toi tu es le fils de Dieu, c'est comme on disait une autre fois, bon, c'est à la fois effectivement une reconnaissance du fils de Dieu, mais c'est aussi une manière de troubler les âmes, c'est-à-dire c'est une manière de révéler ce que le Christ pour l'instant voudrait annoncer lui-même et ne veut pas que le démon les annonce. C'est une manière aussi de troubler les âmes, parce que c'est dire la vérité. Et donc les gens se disent, oui, mais si les démons disent la vérité, est-ce que ce sont vraiment des démons? Quand est-ce qu'ils mentent? Quand est-ce qu'ils disent la vérité? C'est plus sournois de dire parfois la vérité, parfois des mensonges, plutôt que toujours des mensonges. Parce que sinon, si vous dites toujours des mensonges, d'une certaine manière, vous dites toujours la vérité. De quoi? Bah, de fait, ils le font un petit peu, mais après, je pense qu'ils se rendent compte que ça ne sert pas à grand chose de s'opposer au Christ. Mais c'est comme on verra un petit peu plus tard, quand le Christ chasse les démons d'un païen, bon, bah, les démons demandent d'aller dans le troupeau de porc parce que ils voient bien qu'il y a plus fort qu'eux, et je pense que ça gratouille aussi leur orgueil, qui est quand même le moteur, malheureusement, de l'existence démoniaque. De se frotter systématiquement à quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Donc là, c'est un petit peu une des manœuvres un peu désespérées, je pense. C'est bien, parce que les gens sont désespérés, donc ça leur va bien, mais je pense que ce sont un peu des manœuvres désespérées, parce qu'ils se rendent bien compte que là, il y a quand même quelqu'un, alors qu'ils n'ont peut-être pas totalement identifié comme la seconde personne de la Sainte Trinité, enfin, on aura toujours du mal quand ça soit exactement ce que les démons savent de Jésus, mais ils l'ont en tout cas identifié comme quelqu'un de plus qu'humain, en tout cas, et de plus qu'angélique, a priori, puisqu'il arrive à les battre et à les chasser des gens qu'il possédait. Donc, c'est sûr qu'il y a une reconnaissance, il y a sans doute une curiosité, il y a une manœuvre un peu désespérée, mais il y a aussi voilà, une intelligence tactique d'une personne orgueilleuse qui ne veut pas systématiquement se confronter à quelqu'un de plus fort que soi. C'est ce que dit le Christ après, quand il dit, au verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. » Ça, c'est le Christ qui entre dans la maison d'un homme fort, donc qui entre dans un homme qui est possédé par un démon. L'homme fort, c'est le démon, et le Christ vient piller les biens du démon, c'est-à-dire que le démon qui avait fait sa place forte dans un homme, ou on peut même dire d'une certaine manière dans le monde depuis le péché originel, vient se faire retirer ses biens. Et donc le Christ, c'est d'une certaine manière le ligote, enfin, il le lie, donc il en fera son action. Ben c'est ça, oui. Parce que piller une maison, évidemment, c'est pas une action très christique. Alors on dit que ce serait plutôt le démon qui pille la maison. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que l'homme fort qui était maître chez lui, c'était le démon, bon, pour aller vite, un peu dans le monde depuis le péché originel, puisqu'il l'avait emporté en faisant aller Adam et Ève du mauvais côté. Et là, le Christ dit, ben moi je viens pour dépouiller cet homme fort de ses biens, de sa domination, et pour le ligoter. Donc forcément, il y a quand même une action d'entrave du Christ sur les démons. Que la liberté du démon, et c'est peut-être ça qui éclaire aussi votre question, la liberté du démon, elle est quand même toujours limitée par deux choses. En dessous, par la liberté de l'homme, quand même, le démon ne peut pas tout faire comme ça dans le monde des hommes, il faut quand même qu'on lui ouvre la porte. Et au-dessus, elle est quand même entravée par la liberté de Dieu. C'est-à-dire, le démon a une forme de permission de faire le mal parce que Dieu, effectivement, respecte sa liberté et ne veut pas anéantir cette liberté qu'il a créée. Donc c'est un mystère, mais Dieu voilà, respecte et aime tellement sa créature qu'il la respecte même dans ses choix mauvais. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il dit au démon, je te laisse les clés du camion, c'est ce que tu veux. Quoi. La liberté du démon est toujours comme limitée par la liberté de l'homme en dessous et la liberté de Dieu au-dessus. Et c'est ce qui se passe dans les cas d'exorcisme.
Donc, c'est vrai, comme je l'avais compris autrement, je pense que c'est ma question, est-ce que l'homme garde sa liberté vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du démon, ou est-ce que le démon en fait peut s'imposer quand on lui ouvre la porte?
Normalement, ce qu'on dit, c'est que si on est du côté du Christ et si on revêt l'armure du Christ dont nous parle saint Paul, c'est-à-dire si on a la foi, si on a les sacrements, si on a la prière, normalement, on est protégé du démon. Et il y a toujours des cas assez rares de religieuses possédées, mais ça paraît quand même pas la norme. Mais après, ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire qu'en cas de possession, le premier exorcisme, c'est déjà de prier et de recevoir les sacrements. Donc c'est ça qui viendra donner aussi à l'exorcisme proprement dit toute sa force et qui donnera son effet dans le temps. Donc, même si dans ce domaine-là, il n'y a pas de loi mathématique, après je ne vais pas vous empêcher de dormir en pensant que vous allez vous coucher demain matin, mais même si dans ce domaine, il n'y a pas de loi mathématique, on pourra toujours peut-être trouver des exceptions, la règle ultra générale, c'est quand même que les cas de possession sont là lorsqu'on ouvre la porte au démon. Après, il peut y avoir des influences, plus ou moins, ce ne sont pas des cas de possession, mais il peut y avoir des influences de génération en génération, des fragilités ou des petits dysfonctionnements qui peuvent être dus au fait que des ancêtres ont ouvert en grand la porte aux démons et que ça se répercute sur les générations suivantes.
Alors là,
oui, mais de même que si la maman est alcoolique et qu'elle boit pendant la grossesse, ça aura forcément des répercussions sur l'eau. C'est-à-dire que, ce qui est vrai, la solidarité physique qu'il y a à l'intérieur d'une famille ou à l'intérieur d'une population, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une solidarité spirituelle également. C'est-à-dire que, bien sûr que l'homme est libre, mais il est libre au sein d'un faisceau d'influence qui s'exerce sur lui. L'éducation qu'il a reçue, le tempérament qu'il a, l'héritage en bon ou en mauvais, les talents, les qualités que l'on a sont souvent celles de nos parents, mélangées, retravaillées, etc. Donc, on n'a pas une liberté totalement pure et parfaite comme la liberté de Dieu. C'est une liberté qui, en quelque sorte, surmonte, dépasse d'un réseau d'influence qui nous fait aussi. Et toute l'influence bénéfique que l'on reçoit de nos parents, elle a aussi malheureusement son contrepoint, c'est-à-dire qu'effectivement il peut y avoir, là aussi c'est pas non plus une norme absolue, mais il peut y avoir effectivement des influences de génération en génération. Je ne dis pas qu'il y ait une possession de génération en génération. Mais il peut y avoir des troubles, des fragilités, des faiblesses qui seront l'héritage de cela. Alors c'est très à la mode aujourd'hui de purification des arbres généalogiques. Après il ne faut pas non plus être freudien et penser que si j'ai perdu mon boulot, c'est parce que ma grand-mère faisait tourner les tables et que je vais aller voir un prêtre qui va dire des prières de délivrance et comme ça je serai délivré et je pourrai retrouver mon travail, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, je pense qu'il faut être équilibré dans ce domaine, pas voir ces influences-là partout et courir après tous les exorcistes plus ou moins autorisés, mais il ne faut pas exclure d'emblée qu'il puisse y avoir des influences qui perdurent. D'où l'importance de ne jamais jouer évidemment avec ça et de bannir tout ce qui peut justement être porte ouverte. Alors, c'est grande porte ouverte, c'est l'invocation du démon, ça, je pense que c'est pas très pratiqué. Mais voilà, c'est aussi le spiritisme, la voyance, la magie, l'appel aux sorciers, qui est déjà beaucoup plus pratiqué. Des prières un peu païennes qu'on peut trouver dans les campagnes, qui sont un petit peu étranges, qu'il faut évidemment ne jamais utiliser. Ça peut être aussi les drogues dures, parce que peu d'entre vous en utilisent, mais ça peut évidemment le fait d'abdiquer sa dignité et sa conscience pour rentrer dans un monde où on ne maîtrise plus, qui va être un monde un peu intermédiaire, dans lequel le démon aime beaucoup la grisaille, il aime beaucoup les zones grises, les zones un peu étranges où on n'a plus totalement possession de soi-même. Et le démon n'aime pas les zones où justement on garde la maîtrise de son intelligence. Il préfère les zones où on est livré à son imaginaire, à sa passion, à son psyché irrationnel. Et puis les pratiques sexuelles totalement contre nature et là aussi où on abdique sa dignité d'être humain sont aussi des portes ouvertes des mondes. Après on mettait les trois enfants, c'est beaucoup de portes ouvertes. Alors c'est vrai que les gens qui font ça sont forcément possédés, mais c'est vrai qu'ils s'exposent quand même. Tout ce qui est Reiki, ouverture de chakras, qui peuvent être des choses plus anodines, parce que c'est pas de la voyance caractérisée, c'est pas du spiritisme caractérisé, mais tout ce qu'on voit fleurir aujourd'hui dans tous les villages autour de Besançon, les guérisseurs, le yin yang, les trucs pâtes, bizarroïdes, etc. Je dis pas forcément les naturopathes qui font des petites plantes, mais il peut y avoir des naturopathes qui dépassent le côté plante, et quand ça commence à aller vers des techniques, vers une certaine philosophie, vers des choses plus spirituelles, et notamment quand on en vient à parler d'entité, d'énergie, d'ouverture, etc., là, faut arrêter tout ça. Ben, ça dépend comment il est pratiqué. C'est-à-dire que si vous faites juste des mouvements corporels de relaxation, pourquoi pas. Mais si vous adoptez toute la philosophie et toute la pensée qui va avec, c'est mauvais.
Comment vous dites?
Après, vous savez, le père Verlaine, qui est très spécialiste de ces domaines-là, et qui a lui-même pratiqué beaucoup l'ésotérisme et le bouddhisme avant de se reconvertir et de devenir prêtre, par exemple, lui est très sceptique sur l'acupuncture. Mais ça veut pas dire que l'acupuncture en soi est mauvaise et que c'est une porte ouverte au démon. Mais lui est assez réservé sur les origines de l'acupuncture et voit difficilement comment on aurait pu connaître tous ces circuits énergétiques sans en appeler à des entités plus savantes que les hommes. Bon, après, c'est assez modéré sur son site, mais il est quand même... il ouvre un point d'interrogation. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'après, faire de l'acupuncture est forcément... mauvais, c'est-à-dire qu'après ça peut prendre en compte juste des énergies corporelles que l'on va réajuster, etc. Parce que là aussi je pense qu'il faut tenir un équilibre, c'est-à-dire que la médecine occidentale n'explique pas tout non plus de A à Z, et donc il y a aussi des fluides, des énergies qu'elle ne prend pas forcément en compte, et qui ne sont pas forcément des fluides, des énergies démoniaques, peut-être des fluides et des énergies naturelles que Dieu a mis dans sa création. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être dans un excès scientiste, rationaliste, etc. Mais il ne faut pas non plus être dans une naïveté de dire parce que ça marche, c'est bon. Non, il y a des choses qui marchent qui sont mauvaises, parce que le démon s'y met. Quoi. Mais voilà, je pense aux kinés et ostéopathes, etc. Un prêtre de Toulon là, qu'on avait reçu à la maison, l'abbé Bobla, qui est exorciste maintenant du diocèse, disait que d'après lui, un tiers des kinés ostéopathes du département du Var n'étaient pas clairs sur les questions d'ésotérisme, etc. Parce que quand les ostéos commencent à mettre sur carte de visite qu'ils guérissent à distance, etc., ça devient quand même un peu étonnant, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut tenir le juste milieu, mais en tout cas, voilà, ce que disait le curé d'Ars, hein, laisser un village sans prêtre, ils adoreront les bêtes. Je pense que bon, ils n'adorent pas les bêtes, mais je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de villages, de communes, etc., qui n'ont plus de prêtres, où les gens sont aussi cassés par le monde dans lequel on est, cassés par des rythmes de vie, par des alimentations, par... par le travail, par des blessures sentimentales, affectives, et évidemment au niveau surnaturel, cassées par l'absence de Dieu. Et tous ces gens, ils sont cassés, ils sont blessés, et donc arrivent des personnes qui vont prêcher une forme de guérison. Alors après, tout est dans le moyen qu'on prend. Je ne dis pas qu'il faut absolument rien guérir et qu'il faut laisser les gens casser comme ils sont. Mais de la guérison du corps par des moyens légitimes, on peut vite passer à la guérison de l'esprit par des moyens très mauvais. Et ça peut être tentant dans une approche qu'on appelle holistique, qui est très en vogue dans le New Age, c'est-à-dire une approche qui prend toute la personne, le holos, c'est-à-dire tout en grec. Donc dans une approche holistique, unitive, où on dit mais pour soigner l'orteil, il faut soigner l'âme, etc. Dans ce cas-là, on peut vite jouer à l'apprenti sorcier. Et en voulant soigner les âmes, prendre des moyens qui sont très mauvais, et en toute bonne conscience, parce qu'on l'a lu dans un livre, parce qu'on l'a initié par un maître de Reiki, etc. Et on peut soi-même ensuite propager des choses qui sont très mauvaises. Parce que là encore, le démon se frotte les mains dans ces zones grises où on fait appel à des entités non identifiées pour guérir. Les entités non identifiées, ça n'existe pas. Mm-hmm. En tout cas, dans la vision chrétienne de l'univers, il y a la création visible, la création invisible, et dans la création invisible, il y a Dieu, les saints, les anges bons, les anges mauvais. Mais il n'y a pas d'entité neutre. Des gens qu'on pourrait appeler sur commande.
Bonjour, les deux. Je voulais dire que j'en ai rencontré des gens comme ça, fortuitement. En général, ils sont tous anti-chrétiens. Alors, yoga, feng shui, reiki.
Après, vous avez aussi.
Ils ont tous des vies un petit peu tendues. Souvent, c'est pas la même famille, souvent.
Oui, bon, après, bon, il y a aussi des gens, bon, voilà, mais, bon, mais ce que je disais, parfois, il y a aussi, je pense souvent, de la bonne volonté mal éclairée, c'est que le père Verlaine lui-même, redevenu chrétien, continuait à pratiquer l'ésotérisme, parce que redevenu chrétien, il était tombé sur une espèce de groupement qui lui avait beaucoup plu, parce qu'à la fois il parlait de Jésus, puis il parlait des chakras, etc. Donc c'était un groupement qui pour lui faisait un peu la synthèse de ses deux vies, à la fois sa vie bouddhique en Extrême-Orient, et puis sa nouvelle vie chrétienne. Mais en fait, c'était vraiment de l'ésotérisme. Et ce qui a été le déclic, c'est qu'un jour à la messe, à la consécration, il y a beaucoup de pensées blasphématoires qui lui sont venues. Et donc il était allé voir le prêtre très troublé après, et le prêtre lui a dit, mais voilà, je suis l'exorciste du diocèse, donc ça ne m'étonne pas du tout. Et grâce à ce prêtre, il a pu avoir l'éclairage de comprendre qu'en fait, ces gens qui étaient à la tête de ce groupement plus ou moins sectaire, en fait, c'était pas du tout des chrétiens, quoi, et que c'était des gens purement ésotériques, et qui se servaient d'un imaginaire chrétien, parler de Jésus, parler des anges, etc. Et quand justement le père Verlin leur disait, mais j'ai des voix dans la tête, etc. Bon, avant que ces voix ne soient blasphématoires, ils leur disaient, mais oui, mais c'est des anges qui te parlent, machin. Bon, c'est pas vraiment des anges, c'est des anges, mais plutôt avec des petites cornes, avec une petite auréole. Donc, donc il y a aussi des gens qui peuvent tomber vraiment là-dedans, en toute bonne foi, en toute bonne volonté, et en pensant au contraire que
ils vont faire le bien, parce que c'est très facile d'habiller ça avec un vêtement chrétien, et de penser, ben oui, je suis dans la ligne de Jésus qui guérit, et ça. Et surtout que le New Age est très syncrétique, donc le New Age fait la synthèse, le New Age croit à toutes les traditions, donc le New Age, ça ne le dérange absolument pas de parler de Jésus, de parler des anges, etc. Mais pour lui, Jésus n'est qu'un avatar, c'est-à-dire qu'une représentation de la grande divinité impersonnelle qui parle à travers la bouche de Moïse, de Bouddha, de Mahomet, de Jésus, etc. Ce n'est pas Jésus en tant que fils de Marie, vrai fils de Dieu, c'est Jésus en tant que être humain pénétré par le courant de la divinité, puis qui donne un message, et puis ensuite qui meurt, et d'autres comme ça. Quoi. Et donc, c'est ça aussi qui peut être très dangereux.
Il veut souvent aussi se faire des sous, ces genres de boulot. La finalité, c'est quand même soit de vendre des produits, des livres un peu chers.
Il n'y a pas forcément une morale qui va avec. La morale du New Age, c'est une morale extrêmement individualiste, qui est qu'en fait chacun est Dieu, que chacun en soi une parcelle de divinité, et qu'il faut, à travers un certain nombre de techniques spirituelles et corporelles, faire émerger cette parcelle de divinité. Et donc, ça prône un bien-être individuel. C'est-à-dire que pour faire émerger cette parcelle de divinité, il faut chasser tous les obstacles, tout ce qui nous contrarie. Et donc, si notre prochain devient un obstacle à notre bien-être, il faut mettre le bien-être toujours au-dessus du prochain. Donc, il y a aussi un individualisme très fort dans ce dans cette pensée nouvelle.
Je crois qu'ils font des séances payantes.
Enfin, je veux dire, c'est... Je vais peut-être sortir. Sortir de nous, j'y ai
l'honneur. Il n'y aura plus personne. C'est des gourous qui manipulent les gens. Si vous l'avez déjà vu deux fois, je veux dire, je crois que je pas disons, naturopathe, etc. Quoi.
Après, il y a des naturopathes qui ne sont pas des gourous. On a reçu un prêtre qui a fait 6 ans de médecine naturelle. Bon, c'est pas un gourou, mais voilà, je pense qu'il y a, comme dans toute profession, il y a des escrocs, il y a des futés, il y a des pervers, il y a des gens de bonne volonté. Mais au-delà des personnes, le plus important, c'est surtout être très vigilant par rapport à ce qui est proposé, ce qui est dit.
Donc, les gens qui gardent les
cultures, par exemple, la pression de... Oui, moi je suis très sceptique, mais je suis très réservé sur les arbres, oui. Ouais. S'il n'y a pas de suite,
oui, quelqu'un a bon
il y a des religieux qui barrent les brûlures, donc je pense que ça peut aussi. Ça peut aussi être un don de Dieu. Dieu donne des dons de guérison dans la Bible, il peut toujours en donner dans son Église, ça fait partie des charismes. Après, je pense que si on s'adresse à quelqu'un pour barrer les brûlures, il faut prendre un certain nombre de précautions, s'assurer que cette personne a une vraie vie spirituelle, qu'elle a un directeur spirituel, pour... Ah oui. C'est ça la question qu'il faut poser. Faut s'assurer que la personne fait ça gratuitement, qu'elle fait ça en toute humilité, donc dans un esprit vraiment de bienfaisance.
Il faut s'assurer que la personne ne veut pas donner son don à sa mort. Il y a un certain nombre de gens qui veulent absolument refiler leur don à leur mort. Alors on pourrait dire que c'est très altruiste, on peut aussi dire qu'ils ont peut-être pas envie de se présenter devant Dieu avec ce don, parce que l'origine en est peut-être obscure. Donc j'ai des personnes qui veulent filer leur don à la mort, c'est pas forcément très bon signe. Il faut évidemment s'assurer que la personne ne prononce aucun mot et aucune formule, ça c'est évidemment très important. Parce que les personnes souvent qui marmonnent des formules sont des formules païennes, et donc là c'est clairement mauvais. Même si on parle de Jésus dans la formule, j'ai vu des formules pour barrer le feu qui étaient totalement païennes, même si elles faisaient allusion à Jésus. Mais elles ne demandaient pas à Jésus le pouvoir de barrer, enfin de barrer le feu. En fait. C'est plus complexe que ça et plus bizarre. Donc voilà, il faut que la personne prie, qu'elle ait un directeur spirituel, qu'elle soit humble, qu'elle demande gratuitement, enfin qu'elle ne demande rien, qu'elle fasse ça gratuitement, qu'elle ne veuille pas se séparer de son don à la mort, il faut lui demander. Hein. Et surtout qu'elle ne prononce aucune formule et qu'elle ne fasse pas les choses à distance. Parce que autant quelqu'un qui impose les mains, on peut se dire, bon voilà, il y a peut-être un don naturel, peut-être un don divin, qui se fait par ce contact. Il y a personne qui vous dit, donnez-moi la photo, ou donnez-moi le numéro, je la barre à distance. Je pense que quand c'est à distance, il faut mieux le dire. Donc, voilà, je cite tous. Ce faisceau de précaution pour les personnes qui voudraient vraiment faire appel à un barreur, mais à titre personnel, je pense qu'il vaut mieux ne jamais faire appel à un barreur. Et M. Arcatenoz, dans son texte, donc l'évêque d'Avignon, qui a fait tout un texte très très bien, qui s'appelle Vivez en enfant de lumière ou soyez des enfants de lumière, je ne sais plus, qu'on trouve sur internet très facilement, et qui est un texte très précieux sur, dans lequel il fait le point sur toutes ces pratiques, en partant du plus anodin qui est l'astrologie pour aller jusqu'au plus dur qui est le satanisme. Monsieur Arcatenoz qui fait donc tout un grand panorama dit les guérisseurs on oublie quoi. Parce que c'est trop incertain comme un guérisseur barreur.
Donc il faut choisir que quelqu'un souffre beaucoup.
Moi je viens de vous dire, pour les personnes qui veulent en appeler, je vous donne un certain nombre de précautions. Voilà. Si vous voulez faire appel, vous pouvez, mais à mon avis, il faut que dans ces précautions, toutes les cases soient bien cochées. Parce que soulager un corps, le démon, il peut, hein, si ça lui permet de prendre appui dans une âme. Et je pense que si la personne souffre beaucoup, qu'elle est soulagée, mais qu'ensuite elle traîne une infestation toute sa vie, je ne sais pas si elle est vraiment extrêmement gagnante. Quoi.
Il y en a un gars comme ça, je ne peux pas dire le. Ah, si, je veux dire quand même, Dom Martin les Templiers, ça a été connu. Mmh. Il parlait des brûlures, il faisait aussi des week-ends, des petits séjours week-ends dans des petits chalets, côté de chez lui, qu'il avait construit avec les sous qu'il avait pris au jour. Et puis en fait, il barrait les brûlures, il faisait tout un tas de choses, mais dans les petits chalets, il avait mis aussi des caméras dans les baissés, la salle de bain, la chambre. Mais il s'est fait choper. Il va partir, bon, peut-être qu'il leur avait remis une verrue ou quoi, mais bon, après, le gars les filmait dans le douche, quoi.
Ah oui, mais donc voilà, donc vous pouvez faire appel, je pense en prenant un certain nombre de précautions, parce que tout n'est pas anodin, et je vous dis, c'est pas parce que ça marche que c'est forcément d'une bonne origine. Si vous voulez faire tourner les tables, ça marchera, les tables tourneront, ça ne veut pas forcément dire que l'origine est bonne. Ça, parce que quelque chose marche, et qu'on atteint l'effet escompté, que forcément c'est bon. Parce que le démon, qui est malin, comme son nom l'indique, c'est même le malin, lui, ça ne l'embête pas de concéder quelque chose pour obtenir plus. les gens qui font de la magie pour obtenir des puissances sexuelles accrues, ce qu'on appelle la magie rouge, le démon veut bien leur donner une tétière de 30 cm. Ça ne dérange pas. Oui, il y a la blanche, la noire et la rouge. Donc voilà, il faut.
C'est nouveau, ça.
Non, non, c'est pas nouveau. Ouais. Mais la magie blanche est aussi noire que la noire, d'ailleurs.
C'est la rouge.
Ben, la rouge est noire comme la noire. C'est-à-dire que tout vient du démon, donc après, c'est juste au niveau des effets. C'est-à-dire, la noire, c'est pour nuire. La blanche, c'est pour avoir des avantages, mais qu'on va avoir grâce au démon. Donc, c'est jamais des avantages qui ont duré très longtemps. Et la rouge, donc, c'est des avantages, mais en matière sexuelle. Ce qui, aujourd'hui, est extrêmement fréquent, puisque vu que c'est quand même un peu l'alpha et l'oméga de la vie d'un certain nombre de gens aujourd'hui, malheureusement, d'avoir des performances sexuelles accrues, il y a des gens qui sont prêts à tout. Et le démon est tout à fait prêt à leur accorder des choses, surtout qu'en plus, avec les péchés davantage. Donc, c'est vraiment... Il est bien sur tous les tableaux. On est assez loin de Jésus pendant une nouvelle famille. Bon, on ne fera pas du coup chapitre 4 et 5 aujourd'hui. Juste voilà, en un peu rapide, donc l'appel des 12. Donc comme je vous l'avais dit, Jésus donne son nom. Je pense qu'il est important de souligner aussi la formule qu'utilise saint Marc, que le pape Benoît XVI avait beaucoup commenté. Donc on est au verset 14. Jésus en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc l'important, vous voyez, les 12 sont choisis d'abord pour demeurer avec Jésus. Même s'ils sont apôtres, et que les apôtres veulent dire envoyés, ils ne sont pas d'abord choisis pour être envoyés. Ils ne sont pas d'abord là pour une action. Ils sont là d'abord pour une présence. Et ça, c'est vraiment très important. Ça nous rappelle que ce qui est premier dans notre vie, c'est nous tenir auprès du Christ. Et toute la valeur, toute la fécondité par ailleurs de notre action, qu'elle soit apostolique, qu'elle soit combative contre les démons, qu'elle soit bienfaisante, prêchée, tient à notre capacité à demeurer près de Jésus. Et on a là un écho de l'attitude même du Christ, qui avant de partir prêcher, avant de partir expulser les démons, se tient près de son Père. Donc vous voyez, le Christ demande à ses apôtres, finalement, d'avoir la même attitude que lui. Lui se tient près du Père dans le désert pendant 40 jours avant de partir. Il se tient près du Père la nuit dans la montagne quand il prie tout seul avant de prêcher et d'expulser les démons. Il demande la même chose à ses apôtres. Il les choisit pour être avec lui et ensuite les envoyer prêcher et expulser les démons. Donc on peut noter aussi dans ce que nous avons lu quand même ces détails qui sont très touchants, je trouve, qui sont très marquants, ce désir des foules qui presse le Christ, qui se précipite sur lui, qui l'empêche de manger. Jésus qui est obligé de se tenir sur une barque, c'est une belle scène. Qu'on aura, j'espère, sous les yeux lorsqu'on sera devant le lac de Tibériade au mois de février, de Jésus dans sa barque à quelques distances du rivage et qui enseigne les foules. Et évidemment, cette barque, c'est la barque de l'Église. De multiples images, tableaux qui représentent Jésus, la barque de pierre, c'est évidemment cette embarcation de bois dans laquelle Jésus prêche, mais c'est aussi l'Église. Ça nous ramène au cœur de notre propos, Jésus qui fonde son Église déjà, et cette barque de pierre qui est le lieu de son enseignement, l'Église qui est le lieu de son enseignement, cette barque qui permet de traverser le lac, l'Église qui est cette embarcation dans laquelle nous montons, qui nous permet de traverser cette vie pour parvenir au port du salut. Les images sont innombrables. On a expliqué donc l'image de l'homme fort qui est ligoté. Le royaume divisé contre lui-même, on comprend bien la logique, c'est-à-dire que voilà, étant donné que le Christ vient chasser les démons, qui vient annoncer l'amour de Dieu, ce qui est la chose, évidemment, qui répulse le plus le démon, et que toute l'action, toute la prédication, toute la personne du Christ est à l'exact opposé de ce que veut le démon, le Christ dit évidemment que je n'expulse pas au nom du prince des démons. Bon. Évidemment, il pourrait expulser une ou deux personnes au nom du prince des démons, parce que le démon est rusé, donc on pourrait imaginer. Mais étant donné que pas un ou deux exorcismes, c'est toute la vie du Christ, toute l'action du Christ, toute la parole du Christ qui a l'exact opposé, le Christ dit, voilà, c'est ça qui témoigne en ma faveur et qui témoigne du fait que, loin d'être du côté de Belzéboul, je suis au contraire son plus grand adversaire. Et c'est ça que le Christ appelle le péché contre l'esprit. C'est-à-dire cet endurcissement du cœur qui rend à la fin incapable de ce bon sens, de cette lucidité, de se dire, mais voilà, regardons les œuvres de Jésus. Même si nous ne voulons pas croire à la parole de Jésus, peut-être que les pharisiens ne veulent pas croire à la parole de Jésus, mais au moins qu'ils voient les œuvres, et qu'à partir des œuvres, ils en déduisent qui est le Christ. C'est ça, en fait, hein, ce péché contre l'esprit, c'est d'attribuer, comme dit Jésus, à un esprit impur, ce qui est au contraire, à chaque fois, la marque, le signe, le témoignage de la présence de l'esprit de Dieu, donc de l'esprit pur, par exemple. Cette idée que, voilà, contre toute évidence, contre tout bon sens, par endurcissement de cœur, par orgueil, par refus de se convertir, eh bien, on se ferme à tout, on se ferme à toute lumière de Dieu, aux lumières surnaturelles, comme aux lumières naturelles, comme au témoignage des hommes. C'est ça le péché contre l'esprit. Cet endurcissement jusqu'au bout. Et on comprend pourquoi il n'y a pas de pardon possible pour ce péché. C'est que, évidemment, la personne qui est dans cet état-là ne demandera jamais pardon, ne demandera jamais miséricorde, puisqu'elle est totalement fermée et hermétique à la miséricorde. Bon, on pourrait dire que c'est le péché de Judas. Voilà, et puis la dernière partie, donc sur la mère et les frères de Jésus, donc on en a déjà parlé au tout début. Bon, évidemment, quand l'évangile nous dit les frères, bon, ce sont les proches parents, je pense que vous savez, un emploi de la langue sémitique d'appeler frères ceux qui sont des proches parents. Abraham, dans la Genèse, appelle Lot son frère, alors qu'on sait très bien par un autre passage qu'il est le fils de son frère, donc il est son neveu. Je te disais une fois lorsqu'on en parlait, évidemment, la vision sémite des familles n'est pas notre vision, une famille là où chacun est dans son appartement, un peu isolé les uns des autres, etc. La famille, pour le peuple d'Israël, c'est quelque chose de plus large. Donc, on comprend, de ce point de vue-là, que la notion de frère et de sœur soit plus large. Souvent, on vit voilà, avec ses cousins, à proximité immédiate, dans le même village. Donc, évidemment, des liens beaucoup plus forts. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Donc je vous invite pour la fois prochaine, s'il n'y a pas de questions, à lire donc le chapitre 4 et le chapitre 5, et donc à le lire dans la lumière de ce qu'on a dit, c'est-à-dire Jésus qui fonde cette famille, non pas selon la chair et le sang, mais selon l'esprit, cette famille qui sera l'Église, et avec donc, ces paraboles du royaume, notamment, qu'on va entendre. C'est le 6 décembre, la prochaine fois. Donc j'espère qu'on aura des petites clémentines et des bonhommes, je ne sais plus comment ça fait. Mais... Oui, ça fait les bonhommes. Hein. Non, mais les cheveux là, je ne sais pas, les bonhommes. La manala. Les manalas. Les bonhommes en brioche. Oui, mais il y a deux choses. C'est alsacien dans les manalas. Hein. Ouais, c'est un petit bonhomme. Hein. Ouais.
petit bras.
On n'est pas prêt de manger beaucoup de malades. Exactement. Voilà, donc on va monter pour l'oraison. Je vous encourage.